Mes chers frères et sœurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse, nous bénisse et nous garde tous. J'espère que ce message vous trouvera en bonne santé et que votre santé prospérera et prospère comme prospère l'état de votre âme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du nom. Le nom du Créateur et du nom de Jésus. Le nom en hébreu veut dire, en tout cas, Shem. Le nom en hébreu veut dire Shem, Shem. Vous voyez les trois fils de Noé. Shem, Japheth et Ham. Et Ham, voilà, c'est ça. Donc, comme vous l'avez déjà remarqué, dans la Bible, il n'y a pas de prénom. Il n'y a que des noms. Et chaque nom a une signification particulière. Parce que le nom porte en lui, les noms bibliques portent en eux la destinée de la personne, ou la mission de la personne, ou le caractère de la personne, les attributs de la personne. Voilà, le nom de la Bible. Il n'y a pas de prénom dans la Bible, c'est que des noms. Comme David, c'est un nom, c'est pas un prénom, comme Jonathan. Dieu a donné, l'Éternel a donné, Yah a donné. C'est pas un prénom, c'est un nom, comme d'autres noms. Mais aujourd'hui, parce que le nom du Créateur n'échappe pas à cela, ni le nom de Jésus, du Sauveur, n'échappe pas à cela. Donc, je voudrais nous donner quelques éclaircissements parce que nous savons tous que le monde a été créé par des mots ou bien par le verbe. De même que la Bible nous dit que toute chose subsiste par la parole de l'Éternel Dieu. Donc la parole, les mots ont une importance capitale et la puissance d'un mot ne réside pas dans sa prononciation, mais dans sa signification, dans l'image qu'il véhicule, dans l'imaginaire, dans les mouvements qu'il crée, ou bien dans les émotions, ou bien dans la pensée, dans les images qu'il suscite dans la personne qui prononce un mot ou bien un nom, et ceux-là aussi qui entendent ce mot ou ce nom-là. Donc, le nom du Créateur, de Dieu et de Jésus n'échappe pas à cela. D'abord, si nous voyons dans le premier verset de la Bible, on nous dit « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. » Donc, nous voyons que le Créateur s'est présenté sous ce nom-là, Elohim, qui a été traduit par Dieu, avec tous les guillemets possibles. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas, le mot Dieu vient du monde gréco-latin. Et ça n'a pas la même signification que ce que l'hébreu entend par là. D'accord? Voilà, mais ça c'est une autre histoire. Je ne veux pas vous embrouiller là-dessus. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir le nom du Créateur et le nom du Sauveur, du Seigneur, Jésus. Donc soit Jéhovah ou Yahvé et le nom du Sauveur, Yeshua. Yehoshua ou Yeshua. Voilà, donc j'ai déjà planté le décor, excusez-moi, je voudrais faire court, donc j'escamote beaucoup de choses, voilà. Donc, la première fois que le Créateur s'est présenté, il a dit, s'est présenté sous le thème de Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Il y a El, Eloah et Elohim. Et certains exégètes même disent que elle, c'est un seul, Eloah, c'est deux, et Elohim, plus de deux, c'est-à-dire trois au moins. D'accord, voilà. Donc, c'est certains exégètes qui disent cela. Donc, Elohim, qui est traduit par Dieu. Mais néanmoins, cela veut dire, selon plusieurs exégètes, le maître de toutes les forces. Donc, dans le mot Elohim, dans le nom Elohim, donc, il y a l'idée de puissance, de force, de justice et la rigueur. C'est le Dieu de rigueur, le Dieu de la justice. Voilà, c'est ça qui apparaît. Et en allant, en continuant donc la lecture donc de la parole de Dieu, dans Genèse, le chapitre 3 et le verset 8, c'est-à-dire après le péché, nous voyons qu'il y a un autre nom qui apparaît. Genèse 3, le verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Donc, dans le verset 3, dans le chapitre 3 de Genèse, après le péché, apparaît un autre nom, le tétragramme accolé à Elohim. Et c'est ce tétragramme qui a été rendu par Jéhovah, par certaines personnes, ou par Yahvé. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques, beaucoup de polémiques. Il faut dire que ce nouveau nom qui est venu, qui est le tétragramme, est connu, hein, depuis quand même. Est connu depuis longtemps, depuis des siècles, par nos ancêtres. C'est-à-dire que nos ancêtres, c'est-à-dire je parle de Noé, Seth, ainsi de suite, parce que la deuxième fois que ce mot apparaît encore dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse 4, lorsque Adam, nos premiers parents, sont sortis du jardin, ont été expulsés du jardin et qui ont fait des enfants. Donc, à Seth, lui aussi naquit un fils, c'est-à-dire que donc les petits-enfants de Adam étaient en train de naître. Et c'est en ce moment-là que on a commencé donc à invoquer ce nom-là, le tétragramme. Donc ce tétragramme était quand même connu, même si les anciens n'ont pas cerné toute la signification. Toute la signification. Et c'est ce que l'Éternel Dieu disait à Moïse dans Exode 6, le verset 3. Voilà, même dans le verset 2 d'ailleurs, il le dit à Moïse. Elohim adressa la parole à Moïse en disant, Je suis l'Éternel, c'est-à-dire le tétragramme. J'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme divinité souveraine, comme El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire, au fait, ça veut dire Dieu suffisant. Shaddai, en hébreu, veut dire ça suffit. Ça suffit. Donc, le Dieu suffisant, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu de la protection, le Dieu de la provision. Comme voilà, c'est ça. Ça suffit. Le Dieu qui met des limites, El Shaddai, le Dieu souverain qui met des limites. Ce n'est pas en ma qualité d'être du tétragramme, d'être immuable, hein, que je me suis manifesté à eux. Parce que le mot, le tétragramme, Yod, He, Vav, He, fait référence au mot être, au verbe être. Voilà. Et ce verbe être, lorsque l'Éternel Dieu a parlé à Moïse en lui disant, tu diras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis, ou bien je serai ce que... Et là, l'Éternel Dieu a dit, Ehewe, Ehewe, Asher, Ehewe. Voilà, je suis ce que je suis, mais là-bas, il y a eu une formulation qu'on appelle vav conversive qui fait que ce verbe-là, ou bien cette phrase, ce verbe, peut être traduit au présent, au futur et au passé. Donc, on peut dire, J'étais ce que j'étais, je suis ce que je suis, je serai ce que je serai. D'accord? Voilà, on peut le dire comme cela. Donc, c'est le verbe être, ce mot-là. Donc, voilà, parce que ça a entraîné beaucoup, beaucoup de polémiques et avec le temps, puisque les Israélites, les Juifs, avaient peur de prononcer ce mot, de peur de le blasphémer. Donc, ce nom a perdu sa prononciation. On ne sait plus comment prononcer le nom de Dieu. On ne sait plus comment prononcer le nom de Dieu. Mais ce n'est pas tant la prononciation qui est un problème, mais c'est la signification. C'est la signification. Quel que soit si nous l'appelons Jéhovah ou Yahvé, c'est la signification que ça véhicule qui compte. Vous voyez? Parce que c'est ça, c'est le nom de Dieu est une puissance, est une autorité, hein, est une autorité, est une puissance, vraiment une autorité. Et lorsque nous le prononçons avec foi, donc nous mettons en jeu donc cette autorité-là, cette puissance-là, d'accord? Donc c'est pour cela qu'il est dommageable de prononcer le nom de Dieu avec légèreté. Avec légèreté, ou bien de l'écrire avec légèreté. C'est pour cela que chez les Juifs, donc lorsqu'on voit le tétragramme, on le remplace automatiquement par Adonai, ou bien on dit l'être immuable, celui qui ne change pas, puisque la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Mais néanmoins, l'Éternel Dieu lui-même a dit quelque chose qui explique ce mot-là, ce mot éternel, ou bien le tétragramme. Donc, c'est dans Ésaude 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée, s'arrêta là près de lui et proclama nominativement l'Éternel. La divinité passait devant lui et proclama le tétragramme. L'Éternel est l'être éternel, tout-puissant, clément, miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d'équité. Il conserve sa faveur à la huitième génération. Il supporte le crime, la rébellion, la faute, mais il ne les absout point. D'accord? Donc voilà ce que renferme ce nom-là. Ce nom, parce que ce nom renferme des attributs de Dieu, le caractère de Dieu. On nous dit que le tétragramme est associé à la bienveillance, à la miséricorde, à la puissance, voyez, à l'équité, à la justice. Voyez. Donc le nom, l'éternel ou le tétragramme est accolé au mot, au bien, à la notion de miséricorde, de clémence. C'est pour cela que après le péché, donc déjà ce nom est apparu. Parce que si c'était Elohim seul, si l'Éternel Dieu devait juger avec rigueur, avec justice, nos premiers parents, mais nous ne serons même pas là. Ils seront obligés de les détruire. Ben oui, si la justice devait s'appliquer, parce que c'est le qui pêche, il doit mourir. Voilà, donc c'est pour cela même que déjà ce mot éternel est apparu déjà lorsque Dieu a su que Adam et Eva avaient commis le péché. Voilà. Il faudrait que la miséricorde, que la grâce, que la clémence arrive et que cette puissance, cette rigueur de l'Éternel Dieu, d'Elohim, soit balancée par sa miséricorde et son pardon. Et la preuve même, la Bible nous dit que l'Éternel les a revêtus avec un habit de peau, puisque nos premiers parents avaient perdu donc leur habit de lumière. Donc voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, comment peut-on prononcer le tétragramme? Donc il y a là-bas les avis divergent, parce que certains disent que c'est Yahvé. Yahvé, au fait, véhicule la notion de la causalité de l'existence. C'est celui qui existe et qui donne l'existence. C'est ça, celui qui voilà, c'est celui qui est et qui donne l'existence, la causalité de l'existence. Mais néanmoins, certaines personnes l'appellent Jéhovah. En tout cas, vous n'avez pas tort hein, de l'appeler Jéhovah ou Yahvé, mais il faudrait comprendre les choses. Comment est-on arrivé à Jéhovah? Donc, vous savez, le mot Seigneur, Adonai, est au pluriel. Hein. Le singulier, c'est Adon, Seigneur. Donc, Adonai, c'est les Seigneurs. Donc, on a pris les voyelles de Adonai pour intercaler, donc, avec chaque tétragramme, ce qui donne Jéhovah ou Jéhovah. Donc, c'est ça. Donc, il y a à côté du yod, on a mis la voyelle E. C'est un E mieux, E Sheva. On appelle ça le Sheva, hein, qui est en lien donc avec le futur. En lien avec le futur. Et après, on a mis le O, le qu'on appelle Olom, qui est en lien avec le présent. Donc, Yeho. Et après, le A, qu'on appelle le Patar. Le Patar, qui est en lien avec le passé. Donc, quand vous dites Jéhovah, vous êtes en train de dire celui qui est, qui était et qui vient. Ou bien celui qui vient, ou bien celui qui sera, celui qui est et celui qui était. Voilà. Donc, vous êtes en train de dire ça, puisque le yod, c'est le yé. Voilà. Vous êtes en train de dire, quand vous dites Jéhovah, celui qui sera, ou bien celui qui vient. Et après, le O, Olom, le Yéhuyo, c'est celui qui est. Et après, va, le Patar, c'est celui qui était. Donc, ça fait l'éternel. Donc, voilà comment certaines personnes aujourd'hui s'en sortent avec le nom de l'éternel Dieu, dont la prononciation donc, a été perdue donc, par les Juifs. Voilà. Donc, si vous l'appelez Jéhovah ou Yahvé, vous n'avez pas tort, vous n'avez pas péché, mais il faut savoir ce que vous êtes en train de dire. C'est ça, mes frères et sœurs. Il faut savoir ce que vous êtes en train de dire parce que ce n'est pas tant la prononciation, mais c'est la signification que le nom de l'Éternel Dieu a chez vous. Vous savez? Et en Israël aussi, chez beaucoup de Juifs, donc on a remplacé le tétragramme par Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. Hachem. Le « ha », c'est l'article « le Hachem ».« Hachem », le nom. Donc, quand on voit ça, le tétragramme, on a dit « Hachem », bien pour ne pas écorner donc le nom de Dieu. Donc, voilà à peu près l'observation que j'ai à faire. Qu'en est-il du nom de Jésus? Yeshua. Yeshua, c'est l'abréviation de Yehoshua, qui a donné Josué, ou l'Éternel sauve, ou bien Jéhovah sauve, ou bien Jéhovah sauveur, hein, Jéhovah sauveur, d'accord? Donc, c'est ça. C'est Jéhovah sauveur. Jéhovah sauveur. Ce nom se trouve une trentaine de fois, hein, une trentaine de fois, donc, dans le livre d'Esdras et de Néhémie, hein, voilà, ce mot se trouve là-bas, et se trouve là-bas. Donc, voilà, et ce nom-là vient de la Yehoshua, c'est l'araméen, c'est la forme contractée de Yehoshua, ou Jésus. Donc, Yehoshua. Donc, ce nom veut dire l'éternel sauveur, Yehovah ou Yahvé sauve, ou Yahvé sauveur. Donc ça vient de Yahvé Hoshia, où l'éternel est salut, où l'éternel est sauveur, où l'éternel sauve. Yahvé ou Yehovah Hoshia, Yoshia, ça veut dire ça. C'est ça qui a donné le mot Yehoshua. Je disais tout à l'heure que la parole est importante, d'accord? Dans la signification que l'on donne à cette parole. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes appellent Jésus, 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 sans savoir le sens qu'a ce nom-là. C'est vrai qu'en français, ça ne veut rien dire. Mais en hébreu, chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus, ou bien le nom de Yeshua, sachez que vous êtes en train de dire Yahvé ou Yehovah sauve. C'est ça que vous êtes en train de dire. Vous prononcez en disant Jésus ou bien Yeshua, vous prononcez donc le nom de Dieu, de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Nous savons que dans la révélation, dans la nouvelle alliance, l'Esprit Saint nous a fait comprendre qu'au fait, c'est la parole qui a créé, que tout a été créé par lui, pour lui et en lui, en parlant de Yeshua. Voilà. Et il est vrai que pour beaucoup de gens, ils considèrent Jésus ou bien Yeshua simplement sous sa dimension humaine. Mais néanmoins, la Bible nous rend témoignage, nous dit que Yeshua existait depuis l'éternité. Que ses jours remontent aux jours de l'éternité. Et puis également, il y a quand même beaucoup d'allusions. Beaucoup d'allusions dans ce que nous appelons l'Ancien Testament concernant quelqu'un, un être étrange qui se présente des fois comme un ange, comme un être humain, ainsi de suite. Mais je reviendrai là-dessus dans une autre explication. De la même manière, lorsque l'ange Gabriel, c'est-à-dire, ça veut dire l'ange de la puissance, Gevura, puissance, est allé voir Myriam. Il lui a dit que cet enfant, lisons-le, c'est dans Luc, lisons-le dans Luc, s'il vous plaît. Il a dit que cet enfant, verset 30. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et tu concevras, tu enfanteras un fils, tu appelleras son nom, Yeshua, traduit par Jésus. Il n'a pas dit son prénom, parce que beaucoup de gens pensent que le prénom c'est Jésus, le nom c'est Christ, ou vice-versa. Christ n'est que le titre de Jésus ou Yeshua. Donc, ça veut dire Christ, ça vient du mot Christos en grec, qui vient lui-même du mot Meshia. Meshia qui veut dire loin. Ça veut dire Yeshua loin, ou bien Yeshua le Messie. C'est ça. Et lorsqu'on voit je disais tout à l'heure que lorsqu'on voit dans l'Ancien Testament, voilà, et la Bible nous parle, je reviendrai là-dessus un autre jour, nous parle d'un ange. Vous savez, c'est vraiment étrange, mais bon, je reviendrai là-dessus un autre jour. Dans Ésaude 23, le verset 20, où l'Éternel, le Dieu, le Père sûrement, dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point vos péchés. Or, nous savons tous que un ange ne peut pas pardonner les péchés. Nous voyons ça dans le livre des Révélations où on ne peut pas adorer un ange. Où l'ange, même quand Jean a voulu se prosterner, Johanna a voulu se prosterner donc devant lui, il a saisi, non, je suis ton compagnon d'œuvre. Mais ici, voyons, on nous parle d'un ange qui pardonne les péchés. Et lorsque Yeshua est venu sur cette terre et qu'il discutait avec ses contemporains, et il leur dit, vous verrez que le Fils de l'homme, c'est aussi un titre du Messie, a le pouvoir de pardonner les péchés. Vous voyez donc, cet ange-là, étrangement, moi je pense que ça fait référence au Messie avant son incarnation. À Yeshua avant son incarnation. Voilà, on l'a vu, c'est l'Éternel Dieu qui parlait à Moïse. Car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Mon nom, Shem. Shem. Or, nous voyons que dans le nom Yeshua, il y a le nom de l'Éternel Dieu. Ça veut dire Jéhovah ou Yahvé Yoshia. Ça veut dire ça. Yahvé Yoshia, l'Éternel sauve. Son nom, le nom de l'Éternel, c'est-à-dire le tétagramme, est contenu dans Yeshua ou Yehoshua. C'est contenu dedans. Donc, ce verset, vraiment, fait correspondance donc avec le nom de Yeshua et avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Et le verset continue. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange, c'est vraiment, c'est l'ange de Dieu. Vous voyez que nous verrons ça aussi parce que cet ange-là se présente des fois, l'ange de l'Éternel, l'ange de sa face. C'est connu. Cet ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel, donc, est appelé l'ange de la face. L'ange de la face de Dieu. Mon âme marchera et t'introduira au pays des Amoréens, des Hittiens, des Phéréziens, des Cananéens, des Jébusiens, et je les exterminerai. Et c'est pour cela même que lors de la bataille de Jéricho, le chef de l'armée de l'Éternel est apparu. Cet ange est apparu à Josué, parce que c'est lui qui menait la bataille, c'est lui qui a introduit dans les Israélites dans ce pays. Comme aujourd'hui, Yeshua nous introduit dans le royaume de Dieu. Donc, que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde. Amen et Amen. Si vous avez des remarques, donc, ces remarques sont les bienvenues, s'il vous plaît. Surtout, n'hésitez pas. Hein.